Eugénie Pradez, Lilo. Chapitre 1. Le père et la mère regardaient l'enfant dormir. Le petit garçon était resté longtemps éveillé, babilleur, les yeux grands ouverts, mais ses paupières venaient de s'appesantir et il dormait enfin, avec un petit sourire content sur ses lèvres closes, comme si des songes très beaux passaient dans le calme du premier sommeil. Des songes où, déjà, peut-être, père et mère n'étaient plus que des ombres lointaines, presque disparues. Au lieu de vaquer aux occupations multiples qui la talonnaient toujours dans ce petit appartement, où elle faisait face à toutes les besognes, la mère était assise, inactive, auprès du lit, les mains serrées sur ses genoux, la figure fatiguée, tendue par une volonté de rester calme, de ne pas pleurer. « Léna, » dit l'homme à voix basse, en posant une main osseuse sur l'épaule de sa femme. « Si j'avais su, si j'avais pu prévoir, mais j'étais si fort, alors. » « Et quand même nous aurions su, » dit-elle sans tourner la tête, « ce qui est arrivé serait arrivé. » « Non, car moi je ne t'aurais pas épousé, » dit-il sourdement. « Jamais. » « Mais moi, Michel, » dit-elle toujours sans le regarder, « j'aime mieux les choses telles qu'elles sont. » Et ayant refoulé ce qu'elle ne voulait pas laisser voir sur son visage, elle tourna vers son mari sa figure de blonde, déjà fanée, et le regarda paisiblement. « Comme tu es devenue maigre et chétive, » dit-il en considérant les traits affinés que l'émotion intérieure tirait, vieillissait. Et comme tu étais jolie autrefois. » Elle ne répondit pas. Contre les ravages survenus dans son extérieur, elle ne pouvait rien. D'ailleurs, cela lui semblait si peu de chose à elle d'être un peu plus rose ou un peu plus pâle. Si seulement Michel avait voulu comprendre et ne pas toujours penser au passé, puisque cela ne servait à rien. Sur une chaise à côté du lit où dormait l'enfant, un costume bleu marin, soigneusement plié, remplaçait le vêtement reprisé et râpé de la veille. Et dans la pénurie oppressante de la chambrette, ses habits tout neufs introduisaient un élément disparate, réfrigérant. Autour de ces nouveaux venus, le lendemain, encore à naître, prenait une réalité déjà tangible. « Quand je t'ai attachée à moi, Léna, » reprit Michel la voix tremblante, « je t'aurais tenue sur mes bras comme une plume. À présent, je ne peux pas même porter Lilo à travers la chambre. Et maintenant, Lilo part, Lilo s'en va, et toi, tu... Moi, je reste, » dit Léna d'une voix un peu étouffée. « Nous restons tous les deux. » Et ce sera presque comme autrefois, puisque Lilo sera pourvu de tout, et choyé, et heureux. Elle se leva. Elle ne pouvait pas, non, pour le moment, elle ne pouvait absolument pas continuer. Elle alla jusqu'à la fenêtre, souleva le rideau de mousseline jaune, et regarda dehors. Le temps était clair, pas un nuage, pas un souffle. Là-bas, au-dessus de la ville, une lueur rouge teignait le ciel d'automne, et derrière la masse de bâtisses, d'édifices, d'habitations, de magasins, de hangars de toute espèce, le grand fleuve qui menait à la mer passait entre ses rives plates. « Il fera beau demain, » dit-elle toujours de la même voix contenue. « Regarde, Michel, comme la nuit est tranquille. » Il s'approcha d'elle. « Oui, » dit-il, « au moins cela. La nuit est tranquille. » Et ils restèrent silencieux côte à côte, regardant du côté de la mer. « J'aimerais mieux te voir pleurer, » dit enfin Michel d'un ton brusque. En même temps, il tourna vers sa femme sa figure dévastée et il attacha sur elle ses yeux de malade, anxieux et brillants. « Pourquoi pleurer ? » murmura-t-elle faiblement. « Lilo aura le superflu là-bas. Tandis qu'ici, interrompit Michel, la voix amère. « Son père ne peut plus même lui donner le nécessaire, du pain sec. »«
Ce n'est pas ta faute, Michel.
Ce n'est la faute de personne. » Et elle ajouta aussitôt, en levant sur lui ses yeux fanés, à l'air paisible, « Ta sœur n'aime-t-elle pas Lilo autant que nous l'aimons nous-mêmes ? Il sera à l'abri de tout, là-bas. Et toi, tu guériras. Et alors, plus tard, on verra. »
« Je ne guérirai jamais, » dit Michel froidement, en se frappant la poitrine de la main gauche.
« Le mal sera là aussi longtemps que je serai à côté de toi, Léna. » Il y eut un silence. Depuis un an, Léna luttait contre le même découragement tenace, amer et révolté. Et maintenant, elle partageait la conviction de Michel. Jamais, non, jamais, cet homme aux joues creuses ne redeviendrait l'être vigoureux qui l'avait conduit à l'église. Un jour de printemps où la vie s'ouvrait devant eux, chaude et souriante. Les premières fois que Michel avait senti son cœur sauter ainsi follement dans sa poitrine, il avait appuyé la main de Léna sur ce mouvement désordonné, et ils en avaient ri tous deux, bêtement, ne sachant pas ce que c'était. Aujourd'hui, l'aisance d'autrefois avait tout à fait disparu de la maison, et l'enfant, aux grands yeux bleus candides, était devenu une charge inquiétante. Subvenir à l'entretien du petit garçon, le nourrir, le vêtir, le tenir à l'abri des privations mesquines qui assaillaient toutes à la fois son foyer, était devenu, pour Léna, un souci obsédant. Et alors, elle s'était tout à coup décidée. L'offre, repoussée jadis avec indignation, avait été rappelée et acceptée. Le lendemain, le petit garçon partirait seul sur le grand bateau qui traversait la mer, et il irait là-bas, bien loin, chercher une nouvelle famille. C'était la première fois, depuis que la chose était décidée, que Michel disait à ce sujet des choses amères. Et le grand courage, à l'air passif, de Léna en restait ébranlé. Depuis que Michel avait consenti, avec une résignation morne, au départ de l'enfant, elle avait espéré que lorsque le père ne verrait plus courir autour de lui le petit garçon, mal nourri et mal vêtu, il retrouverait une relative quiétude d'esprit, que les reproches injustes dont il s'abreuvait sans cesse perdraient quelque chose de leur âpreté. Elle fixa sur lui ses yeux de blonde, clairs et transparents, où la pupille noire, presque insaisissable, se noyait dans du bleu. Et elle dit tranquillement « Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. » Mais en dépit du calme des paroles, une inquiétude voilait, changeait le regard, et même à la clarté indécise venant par la fenêtre, la flétrissure du visage se voyait. Et il n'y avait plus rien du tout, sur cette pâle figure fanée de la fraîcheur d'autrefois. Michel la considéra un moment, l'œil assombri.
« Te voilà presque une vieille femme, » dit-il enfin brusquement.
Et il la regarda de tout près, dans les yeux, comme s'il espérait d'elle quelque chose. Mais elle resta muette. Alors il ajouta, bas, d'un ton presque suppliant, « Hélène !» Et il la prit tout à coup dans ses bras et la tint serrée contre lui, dans une étreinte amicale. Sans passion. Mais elle resta appuyée sur sa poitrine, toujours sans parler, avec le même sourire immobilisé sur ses lèvres. Au bout d'un instant, il la lâcha et s'éloigna d'elle. Chapitre 2. De l'autre côté du large fleuve, le paysage sans contour, à peine estompé dans du gris, restait enveloppé et mystérieux. L'humidité, montant de l'eau, avait pénétré l'atmosphère pendant la nuit, et le matin s'était levé, couvert et brumeux. À droite, du côté des bassins de refuge,
une forêt de mâts, de cheminées, tout un fourmillement de pointes élancées se hérissait sur le ciel blanc. Et cette armée, captive et immobile, barrant le regard du côté de la terre, le rejetait vers la mer. De grandes barques noires, chargées, pesantes, allaient vers le large, où en revenaient, sillonnant, silencieuses et rapides, l'eau unie et blanche. Tandis que, relié au rivage par une étroite passerelle, un gros vapeur immobile lançait vers le ciel des torrents de fumée noire, épaisse et sale. L'îlot, cramponné au jupon de sa mère, regardait monter dans l'air les lourds tourbillons qu'aucune brise n'éparpillait. La petite figure ovale était devenue attentive et sérieuse, comme si la joie de se sentir si beau dans son costume neuf avec le chapeau marin, où sur le ruban bleu se lisait en lettres d'or le mot « matelot », comme si cette joie encore toute neuve était déjà vieille, finie, oubliée. Tout à coup, 8 heures sonnèrent dans l'air immobile. Léna détacha les mains de l'enfant de ses jupes et dit « Il faut aller ». Elle ajouta, la voix un peu étouffée, « Passe devant moi, Michel ». Et tenant l'enfant par la main, elle suivit son mari d'un pas égal, un peu automatique, et ils franchirent tous les trois l'étroite passerelle qui menait au vapeur. Lui, avec sa figure sombre et ravagée, elle, avec sa pâleur de blonde fanée, son air de pauvreté propre. L'enfant, entre les deux, très élégant dans ses vêtements nouveaux. Ils disparurent un moment, tous les trois, dans l'encombrement du pont. Puis Michel et Léna repassèrent seuls la passerelle. Ils s'arrêtèrent, côte à côte, sur le bord de l'eau fuyante qui s'en allait vers la mer. Autour du corps grêle de Léna, le long châle noir, sous lequel s'abritaient les humiliantes avaries du dessous, tombait tout droit, comme s'il eût enveloppé une forme de pierre. Elle montrait à Michel son profil mince et droit de blonde flétrie, et ses grands yeux clairs, sans larmes, cherchaient dans le tumultueux va-et-vient du pont au milieu de la bousculade des derniers préparatifs. Mais, dans cette mêlée bruyante et affairée, elle ne retrouvait pas le petit garçon. « Je savais bien, » dit-elle enfin de la voix mesurée et basse qu'elle prenait toujours à présent quand elle s'adressait à Michel. « Je savais bien, moi, qu'il ne pleurerait pas. Et il n'a pas pleuré.
« À cause de toi, » dit Michel sourdement. « C'est toi qui lui avais dit de ne pas pleurer. Oui, c'est toi, Léna. »
Et il resta un moment silencieux, regardant du côté de la mer, du large. Puis il tourna la tête vers elle et il ajouta, la voix tremblante,
« Il n'a pas pleuré. Les larmes étouffaient l'enfant. Oui, elles l'étouffaient. »
Et il la regarda avidement, cherchant à surprendre quelque chose sur le visage fané. Elle ne répondit pas. La figure bouleversée du petit garçon venait de passer devant ses yeux, et l'angoisse éprouvée tout à l'heure lui tordait de nouveau le cœur. Elle ne trouvait rien, absolument rien à dire. Michel s'assombrit davantage, et il se détourna d'elle. Depuis qu'il n'était plus pour Léna qu'un objet de sollicitude inquiète, qu'une cause d'incessant sacrifice, la même crainte maladive entravait la liberté de ses paroles. Il n'avait jamais osé dire jusqu'au bout à quel point la contrainte qu'elle s'imposait pour l'épargner humiliait son cœur malade, l'isolait d'elle. Et maintenant l'enfant même se raidissait. À l'enfant même, elle avait inculqué cet affreux courage. Et ce petit être, fait de la chair et du sang de Léna, avait tenu bon. Il partirait le visage contracté, mais sans verser une larme. Qu'importait la distance matérielle? Qu'étaient des lieux d'espace en comparaison de l'infranchissable éloignement où le relégué est une compassion ainsi toujours tendue et irréductible? Et sentant glisser entre ses doigts la minute fugitive, où, confusément, il avait espéré retrouver la mère en sacrifiant l'enfant, il se pencha brusquement vers Léna et de tout près, comme la veille, il murmura à son oreille
« Hélène !»
Au même instant, un long cri aigu venant du navire déchira l'air. Par trois fois, le même sifflet prolongé, strident, fendit l'espace. Puis l'eau battue clapota sous les roues, et lentement, l'énorme masse évolua sur elle-même. Léna fit un pas, son maigre visage flétri s'avança.
Oh, revoir encore une fois le petit garçon, l'apercevoir, retourner ensuite dans la maison vide, avec la certitude que l'îlot avait retrouvé son sourire confiant, ce frais sourire d'enfant qui ne craint rien, se sentant caché sous l'aile, à l'abri du vent, du froid, de l'eau, de tout. Revoir le petit visage aimant, tel qu'il était avant que cette expression désolée le tordît, le défigura. Sur le pont du navire, une houle humaine, massée du même côté, masquait la vue. Entre la rive et le bateau, des mouchoirs s'agitaient. Des cris d'appel, d'adieu, un peu étouffés par le bruit d'eau remuée qui bouillonnait autour de la grande roue, s'échangeaient, s'entrecroisaient. Et déjà, dans le fleuve profond, un sillon creusait l'eau derrière le lourd bâtiment. Tout à coup, l'enfant, avec sa petite figure contractée, apparut. Léna vit distinctement le chapeau de paille avec son inscription dorée. Puis l'apparition s'évanouit. Elle quitta brusquement Michel et courut à gauche, du côté où le navire s'en allait, majestueusement vers la mer. Dégagé des embarras de la rive, il filait à présent vers le large, d'une allure rapide et égale. Héléna le suivit le long de l'eau, jusqu'à ce que l'encombrement de ce quai de déchargement lui barra la route. Devant cet amas d'obstacles infranchissables, elle s'arrêta, et la massive silhouette du navire alla diminuant, s'amincissant, jusqu'à ce qu'elle ne fût plus qu'une ombre insaisissable, un petit point noir perdu dans du gris. Alors seulement, Léna se retourna vers Michel. Depuis longtemps, elle entendait à son oreille le souffle court et fatigué de son mari, et elle le regarda avec son mince sourire immobile sur les lèvres. « Je ne verrai plus l'enfant, » dit-il d'une voix étranglée. « Mon petit Philippe, non, plus jamais. » Héléna vit tout près d'elle la face bouleversée de l'homme malade, avec son regard de souffrance, avide de sympathie. Elle recula et cacha derrière ses mains le petit sourire rigide collé sur les lèvres. « Non, Michel, » dit-elle en s'écartant de lui. « Non, il ne faut pas, je... »« Voir ton visage, » murmura-t-il sourdement, « voir ton visage à présent. » Et violemment, il écarta les mains et démasqua la figure. Elle apparut au grand jour, avec sa flétrissure prématurée, sa pâleur de blonde fanée et les larmes, honteuses d'elle-même, silencieuses mais pressées, abondantes, qui l'inondaient. Alors la grande résistance inutile de Léna céda. Elle tendit ses bras secs du côté de la mer et elle murmura « Philippe, mon enfant, mon petit garçon !» Et brusquement, le vide laissé par la disparition de l'enfant, le grand chagrin pesant, fut partagé en deux parts égales, comme si, au travers de ses larmes, désormais découvertes, Léna eut tout à coup compris le sens du regard inapaisé du malade, si souvent attaché sur le sien. Une sensation profonde, qui ressemblait presque à de la joie, inonda le cœur de Michel. Lorsqu'on ne vit plus trace du navire, que le père et la mère quittèrent le port et s'en allèrent lentement vers la ville, il murmura de sa voix creuse « Te voir pleurer devant moi, Léna, enfin !» Et sous l'apparente cruauté des paroles, Léna devina enfin, à fond, la longue souffrance timide. Pas un seul jour, non, pas un seul, ses efforts pour tromper l'anxiété de Michel
n'avait abouti. L'amertume du départ de l'enfant était à lui comme à elle. Elle ne pouvait plus rien pour lui voler sa part. Mais désormais, quoi que l'avenir mystérieux leur réservât, l'homme à l'œil ouvert, attentif et clairvoyant, ne serait plus dans l'isolement. Jamais, non, jamais plus, le petit sourire oppressant ne viendrait mettre, entre elle et lui, son inutile et cruel mensonge.